lit.
Je vois mal un jeune lion partager sa proie avec un vieux rival. Sans compter que s'il s'était servi sur la carcasse du zèbre, Trust n'aurait eu aucune raison de s'en prendre aux enclos. On va jeter un œil au territoire d'Angoula, histoire d'en avoir le cœur net. Les hommes reprirent la piste, surveillant le vol des rapaces sur la savane. Il fallait 2 jours pour que l'odeur d'une carcasse attire les charognards, mais les vautours avaient l'avantage du visuel. La mare la plus proche se situait à 3 kilomètres. Un point d'eau artificiel qu'un petit moulin alimentait en puisant dans une nappe souterraine. La source des lions, que les herbivores utilisaient aussi, désertée au zénith. Ils mirent pied à terre et se penchèrent sur l'étendue d'eau, alertés par la couleur verdâtre des sédiments et les 2 mangoustes qui gisaient non loin. Strychnine. Le San émit un claquement de langue que John ne comprit pas. Un juron, sans doute. Les braconniers avaient empoisonné la mare où Trust avait bu. Affaibli, le jeune lion avait alors attaqué les brebis et les autruches du kraal, des proies qui nécessitaient peu d'énergie, et il était parti mourir dans la brousse, le ventre creux. Il ne serait pas le seul. Tous les animaux qui s'étaient abreuvés à la mare risquaient de mourir. Et ceux qui dévoreraient leurs cadavres seraient salement malades, devenant à leur tour la proie des prédateurs. Vite cette saloperie pendant que je retrouve les autres, fit John. Le soleil grimpait et l'opération serait fastidieuse. Encon arrêta le système de pompage souterrain du moulin, tandis que John partait à pied dans le bush, lourdement équipé. Le San activa la pompe de réserve, qui bientôt recracha l'eau contaminée sur la terre rouge craquelée. Elle l'absorba aussitôt, nourrissant ses failles du poison dilué qui s'étendit comme une tache brune sur un corps malade. Encon suait sang et eau. Enfin, la mare commençait à se reconstituer. Un rugissement traversa alors l'air saturé de la savane, reconnaissable entre 1000. Lion. John portait son fusil à l'épaule lorsqu'il se déplaçait à pied sur le territoire d'Angoula. Si l'orphelin de jadis pouvait se souvenir de son odeur, les chasseuses et les autres lions qui revendiquaient son territoire risquaient de le charger. Intimidation ou non, il tirerait en l'air pour les effrayer. La vision du léopard abattu de sang-froid le hantait encore, comme une punition pour avoir laissé Aya se faire tuer. John marcha 1 kilomètre à travers la brousse, l'antenne signalant l'emplacement des colliers. Un bip retentit, l'une des lionnes était proche. Il avança encore, se dirigea au cri des oiseaux, et trouva Alice, la femelle alpha, et 2 de ses sœurs, mortes. Une meute de vautours s'arrachait les organes des 3 fauves fraîchement éventrés, indifférent à la présence humaine. John fit claquer son fouet pour éloigner les charognards qui bondirent à quelques mètres en le houspillant. Comme Alice, les 2 lionnes que les vautours avaient commencé à dévorer n'avaient plus de griffes ni de crocs. John récupéra le collier encore accroché au cou de la femelle, fuyant du regard ses entrailles béantes, quand un formidable grondement parvint à ses oreilles. L'appel d'un lion, Angoula, des rugissements terribles et répétés, et d'autres cris aigus qu'il reconnut en frémissant. Yen. John les repéra dans ses jumelles, à environ 600 mètres entre les bosquets d'acacia. Tenaces comme des cerfs sur une proie, elles harcelaient le grand fauve, formidable de puissance mais isolé. Incapable de s'échapper, tapi sur le sol où les morsures de la meute le maintenaient, Angoula montrait les crocs pour effrayer ses ennemis, balayant l'air de ses pattes énormes, souvent mortelles, dans une tentative désespérée de les éloigner. Car le poison de la mare l'avait diminué. Plus robuste que les lionnes, Angoula vivait encore, hurlant pour appeler les siens à l'aide sans savoir que tous étaient déjà morts. Une fin atroce le guettait. Car les hyènes n'avaient pas attendu qu'il agonise pour s'attaquer à lui, le chef de clan Oni. Elle l'avait encerclé pour le mettre en pièces. Mais le mâle était encore vigoureux. Ses coups de griffes éborgnaient les plus téméraires, sa lourde crinière protégeait sa trachée et les organes vitaux de son poitrail. Malgré leur terrible mâchoire, aucune des hyènes ne prendrait le risque de se jeter à sa gorge, protégée par son épaisse crinière. Elles attaqueraient le lion par l'arrière, sans cesser de le harceler. Elles arracheraient d'abord ses parties génitales, puis son anus et ce qui venait avec, pour s'ouvrir une brèche dans son corps. D'autres déchiraient son ventre pour happer les parties les plus riches et